Hello, hello, c'est Eno Kitano. Il est 17h sur JTFM 91.2 et n'importe quelle date ou heure si vous écoutez l'émission en podcast. Bienvenue dans Masculiniquoi, une émission qui pose des questions sur la masculinité. Aujourd'hui, je vous propose en première partie le Songo Volet sur les rapports entre la pêche et la construction masculine. Et en deuxième partie, un micro-trottoir sur le retour de la domination masculine et de la virilité triomphante dans le politique. Les interviews de la série Pêche concernent aujourd'hui mon neveu, ma nièce et leur père. On y parle de mort et de souffrance animale. Les propos peuvent parfois être crus. Vous voilà avertis.
Quand tu as commencé à pêcher, qui est-ce qui t'a appris ?
Qui est-ce qui m'a appris ? J'ai pas mal appris seul en fait, je me suis beaucoup, donc j'ai commencé, je disais, dans les cailloux, aller chercher des crabes. Ensuite, j'ai acheté des toutes petites lignes avec des petits hameçons pour aller pêcher des tout petits poissons dans les poules, dans les mares, à côté des, enfin dans les rochers. Et ensuite, comment dire, on m'a offert une canne à pêche à Noël. Une petite canne à pêche, et avec ça, j'avais eu un lot avec une mitraillette, et je savais qu'on pouvait pêcher à la mitraillette en bateau, et donc j'ai essayé du bord de lancer avec une mitraillette et de voir si ça marchait, et donc c'est là que c'est parti vraiment. Et donc au fur et à mesure, du coup, je pêchais à la mitraillette, et ensuite il y a quelqu'un qui pêchait à côté de nous, qui pêchait de la vieille au petit crabe vert. Et qui m'a mis un crabe vert en fait sur mon hameçon de mitraillette. Et donc j'ai pêché des vieilles comme ça. J'avais une mitraillette, j'avais mes crabes dessus, et je pêchais de la vieille. Et donc après je me suis renseigné, j'ai acheté une vingtaine de livres de pêche. En fait, j'achetais des livres de pêche, je les feuilletais et je regardais ce que je pouvais en tirer et tout ça. Et donc c'est vraiment, j'ai surtout appris par moi-même.
Alors en fait étonnamment, on n'est pas une famille de pêcheurs, donc mon grand-père, donc, qui est de l'île de Saint, enfin qui était de l'île de Saint, lui, il est parti dans la marine et c'est son frère qui a hérité du bateau de pêche, qui pêchait à l'île. Donc la tradition, elle s'est perdue à peu près à mon grand-père et mon père pêchait assez peu. Enfin, il pêchait quand même, mais et voilà, donc il m'a donné, enfin, il m'a transmis des, voilà, mais c'était vraiment très basique. Enfin, quand j'étais petit, on faisait que de l'araignée au casier. On faisait du macro avec des mitraillettes, enfin, c'était vraiment assez basique. Et puis, j'ai pas pêché pendant longtemps. J'ai acheté un bateau quand les enfants étaient petits. Et puis, j'ai recommencé avec ces techniques-là. Et puis, petit à petit, qu'est-ce que j'ai fait ? On a fait du filet un peu. Et puis, Oscar, lui, s'est mis à la canne. Alors du bord, mais et puis donc comme il a beaucoup lu, beaucoup regardé technique, on est passé, on a rajouté la canne dans les instruments de pêche et puis on a ciblé d'autres espèces, quoi. Mais donc je dirais que je savais un peu de choses et j'ai appris aussi, au fur et à mesure, quoi. C'est pas il n'y a pas une transmission directe de ma famille.
Ok, j'ai commencé à pêcher. Je me souviens plus très bien, assez jeune finalement, parce que les parents ils nous emmenaient dans les poules, on allait récupérer les crevettes, on allait chercher du poisson dégoulu. Je sais qu'après j'ai commencé à faire plus de bord. Pareil, c'était les parents plus papa, peut-être, le bord. D'autres personnes aussi. À l'île de Saint, on traîne beaucoup avec les amis des parents, ce genre de choses. Donc je crois que c'est Yann Widrington par exemple, avec qui j'ai fait la première pêche de bord.
Et après, de bord, tu veux dire?
De bord, du grand maine. Avec une canne à pêche et tout. Okay. Avant, c'était des petites lignes avec un hameçon. Et puis, on allait aux poules devant la maison et puis on pêchait du gobie, quoi.
Avec du foire de vernique.
Avec du foire de vernique. Qu'il fallait récupérer. Et j'avais mon opinel et tout. J'étais bien préparée.
Et t'aimais bien ça?
Je sais pas, tant que ça. Je crois que ça m'occupait. Il n'y avait pas trop d'enfants qui faisaient ça, donc je crois que j'aimais bien parce que j'en parlais avec d'autres enfants et je leur expliquais, je leur présentais. C'était un moyen de se faire des amis aussi un peu. De leur présenter les espèces, montrer ce qu'on savait faire. Après, je sais pas, j'ai réfléchi aujourd'hui un peu là-dessus. Je me suis demandé pourquoi, à quel moment j'ai arrêté la pêche. Parce qu'après ça, du coup, on a fait... Papa, il a eu le bateau, on allait faire des casiers, des filets, je faisais pas mal, j'y allais. Et à un moment, ça s'est arrêté. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop comment. Mais je sais que ça s'est interrompu, en fait. Assez soudainement.
Vers quel âge t'avais, en fait,
au moment où t'as arrêté ? Ça devait être vers les 12 ans, peut-être un peu avant, ou plus ou moins 2 ans, un truc comme ça.
Est-ce que c'est le moment où tes frères sont...
En fait, Oscar, il n'était pas trop intéressé au début par là. Il y a toujours une concurrence un peu entre moi et Oscar dans toutes les activités et tout. Et donc, il y avait un peu le truc... Bah, en fait, on n'arrivait pas à partager. Donc, il y avait un truc qui appartenait à l'un et l'autre, il appartenait à quelqu'un d'autre. Il y a eu... Par exemple, il apprenait par cœur les départements en Île-de-France avec ma mère. Et donc, j'ai très vite compris, c'était le truc avec ma mère. Et donc, moi, j'y rentrais pas et c'était son truc à lui. Et du coup, au début, moi, je faisais... Enfin, lui, il était pas très patient. La pêche de bord, il a pas trop aimé au début. Mais après, il était plus jeune. Il aimait pas trop. Et finalement, c'est plus lui qui a pris le truc. Et je pense que je l'ai laissé prendre la pêche. En mode, de, ok, c'est ton truc. Et du coup, moi, j'irai sur autre chose. Mmh. Ouais.
T'as senti que, du coup, à un moment donné, c'était un...
C'était plus...
Un territoire qu'il est...
qui, sur lequel il allait plus prendre, ouais. Peut-être. Et que moi, peut-être que je m'en fichais, finalement, un petit peu. Que... Voilà, c'était sans plus, c'était rigolo. Voilà, on montrait aux parents qu'on avait réussi à pêcher un poisson. Et puis finalement, l'aboutissement derrière, moi, ça m'intéressait pas tant que ça, je pense. Et après, c'est vrai que maintenant, dans la famille, c'est plus un truc masculin. Et donc, je pense que j'ai essayé un moment de revenir dans le truc et ça m'a... Ça avait changé, c'était plus la même pêche qu'avant. Mmh. C'était plus le même milieu que j'avais connu. Plus les mêmes... Je sais pas. C'est comme si je pouvais plus trop être vraiment dedans et... Chacun aussi avait pris leur position un peu sur le bateau, sur le... Enfin, il y avait une sorte de... Pas d'hiérarchie, mais il y avait un truc, ils avaient tous leur place. C'était mis en... Ils fonctionnaient, en fait, dans un truc où chacun avait un peu sa place, son truc et tout. Et je me sentais plus trop dedans, et du coup, j'ai pas... Puis voilà, la mise à mort des animaux, tout ça, ça m'a plus trop... embranché, on va dire. Branché, plutôt. Voilà.
Du coup, les personnes avec lesquelles vous pêchez, elles sont de quel sexe ?
Bah, majoritairement masculin, on va pas se le mentir.
Ouais, il y a que des garçons, je crois que Mélusine, elle veut pas pêcher, ouais. Elle est malade en mer facilement, et puis Anna, elle est pareil. Enfin, en fait, je dirais que c'est ouais, il n'y a que des garçons, mais il y a d'autres familles dans lesquelles les femmes vont en mer, où il y a aussi, chez les jeunes, il n'y a que des équipages féminins, ça existe. Ouais. Ouais. Donc je dirais que ça change, en fait. C'était avant, effectivement, à Saint, la séparation, les hommes en mer et les femmes à terre, dans les champs en particulier, puis l'éducation des enfants, etc. Mais je pense que ça a quand même pas mal changé, en 10 ans, quoi.
On reste en majorité avec des...
Oui, quand je vois, moi, on va en mer, on voit plutôt des...
Oui, ça reste en majorité. Après, moi, je sais que j'ai déjà emmené... Enfin, d'habitude, déjà, on emmène Nan.
Oui.
En bateau. Après, elle vient moins, je trouve, ces années-là. Mais oui, et sinon, de temps en temps, moi, j'emmène des copains. Et souvent, quand j'emmène des copains, il y a des filles qui viennent avec... Là, il y a, la semaine dernière, là, il y a eu Agathe. Et puis, il y a les autres années, souvent, j'emmène des gens. Il y a des filles à bord aussi qui viennent et qui font.
Et je pense qu'elles se sentent moins autorisées, en fait.
Oui.
Pas par nous, mais par la société, enfin le fonctionnement. Quoi,
Et du coup, qu'est-ce que vous partagez avec les personnes avec qui vous pêchez ?
Qu'est-ce qu'on partage? Je sais que nous, quand on est en mer, on est vachement concentré, on se parle plus beaucoup. On a des automatismes qui se créent presque, donc c'est pas du partage au niveau de la parole, c'est pas des trucs.
Oui, la communication, ouais. elle est non verbale. En fait, elle est très présente, la communication, mais elle est non verbale. Sauf quand il y a des situations de crise. Et puis qu'est-ce qu'on partage? Je pense que c'est quand même des moments en fait on est, enfin on peut voir la pêche comme quelque chose où on est tout seul à pêcher, et là au contraire on sort quasiment jamais seul, quoi. Donc c'est vraiment des moments de je dirais partage, puis de collaboration aussi, parce qu'on est souvent sur des instruments de pêche, enfin, mis à part la canne, il va falloir être deux ou trois pour lever les casiers, pour lever les filets, etc. Donc c'est pas... ouais, c'est... non, c'est être ensemble et partager une activité de manière... comment dire... assez construite quand même.
Ouais, ouais. Puis il y a aussi le fait, quand on veut trouver des coins aussi pour poser les casiers, les filets et tout ça, on n'a pas forcément les mêmes idées. Et,
oui, c'est vrai.
Là, il y a un partage. Et tu vois la vision de l'un ou de l'autre, ouais. Sur où est-ce qu'on pourrait poser, qu'est-ce qui pourrait vraiment marcher. Parce que, par exemple, il a entendu quelque chose ou il a vu quelque chose que l'autre ne sait pas. Et donc, il y a aussi un partage de cette manière-là de la réflexion de où on pourrait poser les outils, les engins de pêche, où est-ce qu'on pourrait les poser. Là, il y a un partage de réflexion, en fait. C'est pas un qui va décider, tiens, on va mettre là le casier, on va mettre là le filet. Ouais. C'est quand même, on se dit, tiens, on pourrait mettre là, parce que machin, par exemple, tiens, l'eau est chaude, donc on pourrait aller plus profond, ou des trucs comme ça. C'est un partage à ce niveau-là aussi. Et même quand on pêche des gros poissons ou des trucs qu'on n'a pas trop souvent, le fait d'être à plusieurs, ça fait des gros moments d'euphorie ouais. À bord. C'est un petit peu la fête et c'est des souvenirs qui restent, quoi, après.
Bah, y avait un peu une sorte de, je sais pas, de milieu d'entre-soi, de trucs où c'est un truc qu'on partage entre nous, les autres ils sont pas dedans. Et on se sait, quoi. On a partagé un truc et ça rapproche les gens. C'est pas tant que ça de la pêche que j'ai partagé. Enfin, c'est pas des moments de... Enfin, c'est plus, voilà, il y avait une sorte de lien qui se crée entre les personnes grâce à ces moments partagés où on était, par exemple, tout seul sur un bateau, sur la mer, ou ce genre de choses. Ou d'avoir, tiens, on a galéré à remonter le filet, puis on y est tous arrivés ensemble en portant les trucs et tout. Mais il y avait... Je sais pas, c'est plus ce genre de choses, ouais. Après, j'y suis moins retournée avec les trois en même temps. C'est plus soit tout seul avec Emilien, soit tout seul avec Oscar et papa. Enfin, comme on n'est pas le pied, le bateau est petit, c'était compliqué d'y retourner à quatre.
Concernant les poissons que vous pêchez, existe-t-il une concurrence entre les pêcheurs sur la taille des prises ?
Alors, dans l'équipage, oui, il y a une compétition, mais c'est pas sur toutes les espèces, c'est sur des commandes. Et c'est pas une compétition forcément malsaine, c'est juste comme ça. Parce que aussi, je pense qu'on est de la même famille, que c'est mon petit frère Emilien, que forcément, la fratrie, il y a toujours eu une petite compétition, pas forcément malsaine, hein, comme je l'ai dit, mais juste, je pense qu'il y aura toujours de la compétition dans une fratrie. Et même avec toi, papa, il n'y a pas de... Enfin, quand on va pêcher du lieu ou des choses comme ça, forcément, on est là, le but, c'est quand même de pêcher le plus gros poisson possible, je trouve. Après, sur d'autres espèces, le maquereau ou des choses comme ça, c'est pas forcément... c'est juste plus dans la quantité, sur des espèces qui sont pas forcément très grandes de base. C'est plus la question de la quantité plutôt que de la taille du poisson, je trouve. Après, avec les autres équipages, en fait... on ne pêche pas forcément tout le temps les mêmes choses. Là, par exemple, le congre, on est quasiment les seuls cette année à en pêcher. Mmh. Et donc, on n'a pas le monopole, mais quasiment. Donc, on est... Non, mais enfin, on est quasiment les seuls à en pêcher. Du coup, il n'y a pas forcément de compétition avec les autres sur la taille des congres à avoir. Déjà, on a du congre.
Voilà. Mais les équipages bien élevés, ils ne montrent pas ce qu'ils ont pêché, en fait.
Non, non, mais c'est...
Tu vois, enfin... Ouais. Donc, tu sais pas forcément, en fait, ce que pêchent les autres.
Ouais. Les équipages mal élevés, ils montrent ?
Bah, ou s'ils ont des choses à prouver, ou des choses... Ouais, ouais. Enfin, ouais.
Il y a une concurrence, c'est sûr, entre les gens d'une même, d'un même truc. Je vois bien Oscar et Emilien, voilà, des fois, il y en a... Ah, c'est... Il y en a un qui a rien pêché, il y en a un qui a pêché, ou il y en a un qui a... Ils ont tous les deux pêché un bar, mais il y en a un qui a pêché un plus gros bar. Ça va être des choses comme ça. Et après, ça va être aussi entre les familles sur l'île en particulier, où bah, On dénigre des fois la pêche des autres, leur coin, ce qu'ils pêchent. Il y a des poissons qu'on considère peut-être plus nobles ou plus intéressants que d'autres. Et donc voilà, oui, il y a une concurrence, c'est sûr, ça.
Et vous pensez qu'il y a un rapport avec une marque de virilité ou de... C'est moi qui ai le plus gros poisson, enfin, quelque chose qui serait un peu masculin.
Je sais pas si c'est de la virilité non, ou si c'est prouvé que t'as le, comment dire, pas t'as le droit d'être là, mais que t'es légitime d'aller pêcher toi aussi, quoi.
Oui, je pense que c'est quelque chose comme ça, de se dire, enfin, ou de montrer, ben, vous voyez, j'ai pêché ça, je suis un bon pêcheur, et je suis, enfin, comment dire, pouvoir prouver qu'on puisse appartenir à l'île, ou enfin être, ouais, légitime sur l'île.
Ouais, c'est
de
ça.
De se dire, il y a, ouais.
Ah, ça va être reconnu.
Ouais.
C'est, ouais. C'est, non, c'est plus que je le vois plus comme ça, ouais. Ouais. Plus c'est de ça, dire, c'est... ouais, j'appartiens aux pêcheurs de l'île, je suis là, je pêche aussi, je prouve que, pas que je pêche aussi bien que vous, mais enfin qu'il y a un truc où, ouais, moi aussi je suis là.
Non, je crois pas que ce soit quelque chose de, ouais, de l'ordre de la virilité.
Non.
Après, c'est physique, enfin, il faut, voilà, il y a des choses.
Pêcheur gaspésien, suivait son père chaque matin, 15 ans et demi et déjà le pied marin. Sous la lueur d'un vieux fanal, accompagné par les étoiles, prenait le large, le vent dans les voiles. Tous les jours son père lui disait, quand il remontait les filets, y a tant de poissons dans le Saint-Laurent, qu'on en aura jusqu'à la nuit des temps. Et au bout de 40 saisons, le paternel comme de raison, décida de jeter l'ancre pour de bon. Le petit pêcheur gaspésien, qui n'avait plus rien d'un gamin, prit la relève du bonhomme au la main. Comme les pêcheurs des environs, il voulut prendre de l'expansion, troqua le vieux bateau pour un plus grand. On ne peut pas arrêter le changement. Le petit pêcheur gaspésien roulait sa bosse avec entrain dans les années 70 et 80. Et pour mieux runner sa business, il prit avec lui ses deux fils, comme le père l'avait fait avec lui jadis. La pêche était en plein essor, c'était l'époque des grands records. Il revenait chaque jour à marée basse, le bateau rempli de morues bien grasses. Pêcheur gaspésien, sans monter en lui le chagrin, quand il voit ses garçons exilés au loin. Les deux ont les pieds bien au sec, l'un à Montréal, l'autre à Québec, plus jamais ils ne sentent l'odeur du varech. Le poisson est jamais revenu, et son beau bateau fut vendu, il ne lui reste que le paysage, et ses souvenirs quelque part au large.
Pensez-vous que la pêche est une activité d'homme ?
Bah, traditionnellement, oui, en fait. Mais, moi, je trouve que ça change vraiment.
Hein. C'est... Mais moi, je vois, oui, de ma génération, en tout cas, il y a plein de,
Lila
de
qui filles.
Il y a Lila qui a fait le lycée de la pêche, qui est embarquée. Je crois qu'elle est embarquée maintenant.
Ouais.
Embarquée,
bah, elle pêche, elle est sur un bateau, quoi. Elle est
sur un ligneur ?
Pas sur un linéaire, je sais pas, mais enfin, je crois qu'en tout cas, elle a fini le lycée de la pêche. Et normalement, quand tu finis le lycée de la pêche, soit tu vas continuer des études, soit tu te fais embarquer, quoi. Mais c'est en gros, elle fera pêcheur pro dans les années à venir, quoi. Parce qu'après aussi, la pêche, c'est assez large. Je trouve que là, on parle beaucoup de la pêche en bateau, à la canne, au filet et tout ça. Mais il y a quand même la pêche à pied où aussi. C'est vraiment différent, c'est pas du tout la même chose, c'était à terre et tout ça. Mais je trouve que les femmes, elles sont aussi. Moi, je pense que niveau pêche à pied, je suis une brêle. Et il y a beaucoup comment, de filles qui sont beaucoup plus fortes que moi, qui ont vraiment des connaissances. C'est pas les mêmes connaissances que les hommes, mais qui vraiment se débrouillent très très bien, que ce soit la pêche aux crevettes, aux bigorneaux, les palourdes. Enfin, vraiment, je pense que ça s'est plus développé avant, ça se développait plus. Comment dire? Avant, la pêche c'était réservé vraiment aux hommes. Ensuite, on a eu une génération.
Tu parles de la pêche en mer
En
ou
général,
en
en général.
général. Non, mais il y a toujours la culture
De la pêche à pied pour les femmes.
Ouais. Alors,
Ouais.
à Saint, je sais pas
À Saint, je sais
trop.
pas. Pour moi, c'est venu vraiment
Parce que t'as des coins de
après
Bretagne.
les années 50.
Non, t'as des coins de Bretagne où c'était les femmes qui pêchaient, qui faisaient la crevette, qui faisaient de manière
Oui.
pro, quoi.
Bah, c'est majoritairement des hommes qui font l'activité sur l'île. Il y a des femmes, hein, ils ont parlé dans l'interview cet après-midi. Il y a des femmes, c'est sûr, mais c'est principalement des hommes et c'est transmis surtout d'homme à homme beaucoup, j'ai l'impression. Je sais pas si. Je sais. Enfin, voilà, après les femmes, peut-être qu'elles se sentent pas à l'aise, j'en sais rien. Je sais pas très bien encore vraiment comment ça se transmet, etc. Mais en tout cas, c'est sûr, il y a beaucoup plus d'hommes, dans les faits, on va dire, qui le font. Après, je pense que. Après, c'est la manière dont tu pêches. Je pense qu'il peut y avoir bien sûr une certaine masculinité, un milieu masculin qui est créé où les hommes s'y sentent à l'aise et ils aiment bien aller dans ce milieu-là. Je pense aussi, là, c'était l'été dernier, Nan, elle voulait aller un peu avec vous, c'était l'été d'avant. Et ça a frité en fait. Elle faisait des commentaires sur le bateau, elle parlait, tout ça. Et ils ont détesté les garçons. Oscar et Emilien, ils pétaient un câble. Ils n'en pouvaient plus, ils disaient non, elle nous fait des commentaires, elle dit des trucs. On refuse. Des fois, elle les critiquait un peu, elle faisait des petites remarques pincantes. Enfin, c'est Nan. Mais sur le bateau, dans ce milieu où ils étaient habitués à être juste seuls avec papa, je pense qu'ils avaient du mal à prendre les remarques, à prendre les trucs. Ils aimaient pas trop qu'elle parle. Enfin, voilà. Elle prenait de la place un peu, je pense. Peut-être pas de la manière dont ils voulaient, et ils étaient pas à l'aise avec ça, ils aimaient pas.
C'est marrant, ils n'en ont pas du tout
Non,
parlé.
ils en ont pas parlé, je sais.
Ouais, c'est rigolo.
Et
Genre, ouais.
ouais.
Et tu penses que le fait que Nan, c'est du coup ta grand-mère, ma mère.
Je pense que tu
Est-ce que
viens
tu penses
dans
que
un.
le fait que ça soit une femme?
Le fait que ce soit une femme, ça joue. Le fait que ce soit leur grand-mère aussi, je pense que ça joue. Ce fait qu'il y ait ce truc de. C'est un peu l'adulte au-dessus, entre guillemets, dans l'ordre de hiérarchie familiale. C'est quelqu'un de leur famille. Et ils sont. Je sais pas, ils le gèrent différemment. Je pense que ce serait juste une femme qui viendrait avec eux. Ils ont déjà. Les gens, en fait, j'ai entendu un peu l'interview de ce midi parce que j'étais dans la salle de la chambre, dans la pièce à côté. Et ils parlaient des. Bah, ils disaient oui, on invite des femmes et tout à venir. Et. Bah, ils invitent, c'est ça. Pour moi, c'est ce truc où les femmes, elles viennent, elles sont invitées sur le bateau, elles font des. Elles viennent de temps en temps, elles ne viennent pas tout le temps. Mais elles sont pas le. Elles sont pas dans la pêche couramment, tous les jours, dans le truc. Il y a une invitation. Tiens, on vient, tu peux venir avec nous. C'est un peu. Je sais pas.
Il parlait de Lila.
Oui, ouais, Lila qui est. Bah, c'est la fille de Jean-Marc.
Ah, Lila, c'est la fille de Jean-Marc.
Ouais. Et du coup, bah, elle allait en pêche avec lui quand elle était petite.
En fait, son
Son
père est un pêcheur, quoi, c'est
Oui,
ça?
c'est ça.
Donc, en fait, c'est la monte en
Bah, ils l'ont mis, c'est leur exemple. Ils ont choisi
incarnation
l'exemple de
Ah
Lila, mais
oui,
en
donc en
fait.
fait, c'est un épouvantail qui bon, se sert
Oui, donc ils s'en servent,
pour se
ouais.
rassurer sur le fait que,
Bah.
genre, les meufs, c'est cool,
Oui.
quoi.
Parce qu'ils disaient les femmes qui. Enfin, genre, j'avais envie de leur demander des exemples, en fait, de femmes qui allaient en mer. Ils ont dit, oui,
Les
papa. Ils parlaient d'équipage
Sorgaillères,
féminin, oui. Bah,
et
les
Lila, quoi.
Logoster, mes amis, elles y vont un peu. Les Naïgs, elles y vont encore. Là, c'est comme ça, devenir tendu avec son oncle, elles s'entendent plus trop. Et c'est un peu lui le chef du bateau, parce que c'est encore un truc de masculin, tout ça. Parce qu'elle y va avec sa. En gros, il y a l'oncle, sa mère, qui est la sœur de le père, enfin de l'oncle. Et donc, voilà, il y a un peu cette horde d'hommes. C'est une famille, voilà. Les enfants du gars, même si c'est le plus petit, c'est le Benjamin, ils ont une sorte ils ont des privilèges dans le cercle familial, et lui aussi. Et donc c'est un peu lui le chef du bateau quand ils vont en mer. Et donc voilà, donc ça commence à friter un peu, mais elle y va toujours. Il y a Annaëlle qui va aussi encore un peu, mais elle est malade en mer, donc elle y va moins. Mais ouais. Si elles y vont, après, je sais qu'il y a... Voilà, il y a ces filles que je sais qu'ils invitent des fois. Oscar, des fois, il invite des amis à venir. Mais c'est pas, ça revient pas tous les jours. C'est de temps en temps, on y va. Des fois, ils font un peu de ligne.
Que font les femmes quand les hommes sont à la pêche? Qu'est-ce qu'elles font? D'autres choses. Ça dépend du moment
ça dépend, de la journée, ça, en fait. C'est ça.
Pour
c'est...
la pêche.
Si, oui, c'est sûr que si c'est le matin... Des fois, elles dorment. En fait, si tu pars tôt, elles dorment. En général. Après, oui, ça dépend vraiment du moment de la journée, quoi. Tu... Comment dire ? C'est sûr que si tu pars à des heures où forcément il y a des tâches à faire à la maison, bah, c'est pas toi qui vas les faire. Et forcément, bah, ça va être les femmes qui vont les faire. Après... En plein après-midi ou des choses comme ça. Maman, elle va à la plage. Ouais. Oui, elle n'est pas non plus.
Et traditionnellement, pour à l'île de Sein, vous savez si justement, enfin, les hommes partaient en mer pour ouais. pêcher, et puis de souvenir, ils partaient tôt le matin et ils rentraient en fin d'après-midi.
Non, en fait, non, ils sortaient en mer en fonction de la marée, donc ils se décalaient tous les jours d'une heure, donc il y a des jours où ils se levaient à 3h du matin pour aller, parce qu'ils étaient à la voile avec des petits moteurs, oui. Et donc ils allaient être... Oui, mais ça pouvait être après, toi ça se décalait, au bout d'une semaine, ils partaient à midi ou 16h, et puis ils rentraient, donc c'était vraiment lié à la marée. Et les courants, et donc c'était en fait complètement déconnecté de la vie à terre. Et ils suivaient ce rythme-là, ce qui faisait qu'ils participaient absolument pas aux tâches de l'île, enfin, mais que ce soit les tâches ménagères, je sais pas, l'agriculture, rien quoi, enfin, ils faisaient rien quoi. Et ils étaient uniquement sur la pêche, et sauf peut-être, moi je connais pas assez, mais il y a peut-être des moments de rassemblement de la population quoi. S'il y a le dimanche ils bossaient pas, ils pêchaient pas. Tout le monde allait à la messe.
Puis les mariages aussi, les trucs. Ouais.
Et les femmes du coup elles faisaient.
Bah, elles faisaient les champs, elles étaient.
Elles faisaient le reste.
Ouais, oui elles faisaient tout. Donc, le reste.
Ce qui est beaucoup en fait. Elles faisaient le. L'agriculture, le goémon. Des tâches ménagères.
S'occuper des enfants aussi.
Oui.
Ou pas, en fait, je sais pas si les gosses étaient.
Enfin, bah, les gosses, après, ils ont été vite fait. Ouais, disons,
les canottes, et puis après, ils allaient à la pêche.
Mais ils allaient chercher la boîte, en fait. Ouais. Ils montaient pas à bord à faire des palangres et tout, mais ils étaient déjà allés chercher du poisson pour boiter les casiers et tout.
Je pense que c'est en fonction de la place qu'on a dans la famille à ce moment-là, des rôles qu'on a au quotidien déjà. Je fais des bruits parasites.
Ah.
Et de comment on va vivre la pêche des autres. Si on subit la pêche des autres, en fait, on va devoir s'occuper, on va devoir faire un truc. Là, par exemple, en ce moment, j'ai la chance de pas dormir à la maison et de je m'en fous en fait. Ben, allez, en pêche, je m'en fous, je ne me réveillerai pas le matin. J'arriverai pas peut-être avant 11h à la maison, 10h30. Donc en fait, je m'en fiche. J'ai la possibilité de faire ça aussi parce que je suis pas maman. Que maman, elle récupère les tâches. Elle se soucie de, je sais pas, le pain, le balai, la caisse des chats, tout ça. Et que j'ai pas à me soucier de ça. Et en fait, je délègue à maman, et c'est mal de ma part. Et les garçons, du coup, vont déléguer à maman et on se repose sur maman pendant les vacances. Pas pendant les vacances, je pense. Mais comme la pêche est pendant les vacances, il se permet de le faire. Et moi, je me permets de fuir un peu la situation en déléguant sur elle, je pense.
ça. Pas gagner plus d'argent. Le matin me lever. Pas connu, pas guetté. Parce que ça, ça fait mal. Ça fait mal à l'homme. La sérénité. Finir dans l'eau salée. Juste savoir compter. Vider le sablier. Puis tout oublier. Parce que ça grandit l'homme. De vivre sans parler, de vivre sans parole, et d'apprendre à se taire, regarder sans rien faire, regarder sans voir, les enfants qui dansent au bord du miroir. Personne s'en souvienne. Les crévaux le disent. Vider sa valise. Brûler les journaux. Les tapis, les photos. Sans rien vouloir apprendre. Pour que les enfants sachent. On va quelque part. Quand on oublie tout, qu'on oublie les coups, qu'on déplie, qu'on secoue, que la folie s'attrape, qu'on déchire un âme, maladie tout à coup. Porte à ton cou comme un collier de fleurs, de larmes et de couleurs. Un jour finir pêcheur, mollusque divin, peau de parchemin. Mais c'est tout.
Voyez-vous un lien entre le fait que la pêche soit une activité où on tue des animaux, donc pour se nourrir, et le fait qu'il s'agisse d'une activité plutôt masculine?
Non. En fait, non. Ma grand-mère, donc ça c'est de l'autre côté, les femmes, dans les fermes, c'est elles qui s'occupaient de tuer les poules, de tuer les lapins, les dépecer, et donc je pense pas en fait. Alors peut-être qu'à Saint, en fait c'est ce qui reste des traditions, il n'y a plus que de la pêche, mais avant il y avait des vaches, des poules, alors les vaches elles devaient être quand même, elles étaient abattues mais, par un boucher, mais je pense que les femmes aussi en fait elles faisaient, enfin elles tuaient des lapins, enfin, ouais. Il n'y avait pas à l'époque, mais des poules ou des... Donc non, c'est ce qui reste des traditions de Saint, quoi. Mmh. Mais, ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas une différence dans la manière de mettre...
Moi, je suis pas... Ma grand-mère, je peux dire que...
Les lapins, moi, je suis pas trop d'accord. Hein. Quand je vois les gens que j'emmène en mer, ouais. Toucher des poissons, hein, déjà... Le fait d'avoir le poisson vivant dans la main et tout ça, c'est pas forcément le kiff. Et après, tuer le poisson...
Oui, mais c'est pas que les filles, c'est les non. garçons aussi.
Donc mais en majorité, moi, les garçons que j'emmène, il y a moins le problème de comment
de tuer.
Pas de forcément de tuer, mais d'avoir le truc vivant, d'avoir le truc sur la conscience ou... Après, je pense pas que ce soit un truc qui rendre masculin de tuer un animal, mais je pense que forcément il y a des exceptions comme ta grand-mère. Mais ouais. C'était un autre temps, c'était un temps
oui,
où.
Oui, c'est ça. Et je te dis, ouais. Elle, c'était une généralité
oui.
à l'époque.
Oui,
c'était une généralité. Dans les fermes.
Oui, bon, mais c'était à l'époque. Actuellement, oui. On est quand même.
On n'a pas le même rapport avec les animaux et avec la mort.
On est dans un monde où, quand même, tu veux à manger, tu veux de la viande, tu vas au supermarché, le truc est déjà tout beau, tout propre, tout préparé, et t'as juste à l'acheter et le faire cuire. Oui. T'as pas le fait. Là, à la campagne, forcément, ils tuaient des animaux parce qu'ils voulaient bouffer. C'était pas eux qui allaient acheter.
Oui, mais en fait, moi, je pense que c'est ça qu'on a gardé. On a essayé de garder. En fait, c'est quelque part, c'est de l'humanité, parce que, enfin, pas envers les animaux évidemment, mais de garder un lien non aseptisé à la nourriture et à ce que tu manges, et donc de savoir d'où ça vient la nourriture. Et donc, voilà, à un moment, on a quand même tué des animaux. Et je pense que, enfin, la pêche, elle permet aussi de conserver ce lien, en fait, avec soi-même quelque part.
Après, aussi peut-être que, alors, je parle pour les poissons, mais sans lien avec les pêcheurs, les hommes qui allaient pêcher, qui tuaient le poisson, et les femmes qui restaient à la maison, peut-être que... Tu vois, elle touchait pas trop au poisson, elle le touchait pas, c'était pas elle qui le touchait, qui le
quittait. Si, elle le préparait, elle mettait, ça faisait
elle le fait avec. Mais tout, elle le voyait pas vivant.
Ouais, je sais pas.
Elle le découpait pas, elle le vidait pas, tu vois.
Ça m'a fait penser, j'ai entendu le questionnaire ce matin, je sais plus à quel moment c'était. Que autrefois les femmes elles avaient pas le droit d'aller en mer parce que ça portait malheur d'avoir une femme sur le bateau. Donc je sais pas si c'est vraiment l'action de tuer, parce que enfin il y a un truc par la tuerie peut-être qui est lié à la masculinité, etc. Je sais pas. Après je sais qu'autrefois les femmes tuaient aussi quand même les animaux à la ferme, etc. Tu sais, tout à l'heure tu parlais des crabes qu'on gardait, qu'on dépeçait et tout. J'étais l'une des seules meufs à faire ça pratiquement à mon âge, et pourtant il y a plein de garçons qui le faisaient aussi.
Oui, moi je l'ai fait essentiellement avec les garçons.
Et je me souviens que les filles elles aimaient pas ça, elles s'étaient dégoûtées. Moi rapidement j'ai plus trop. Enfin, je sais même pas, je dépeçais pas. Je sais, je me demande si j'ai pas enlevé des pinces peut-être à des crabes. Et assez rapidement j'ai détesté le faire. Et je voulais plus en faire. Mais c'était surtout d'autres garçons qui le faisaient.
Alors moi je me souviens que c'était genre 2-3 étés de ma vie, quoi.
C'est ça, oui, c'est ça. Moi c'est ouais, des 8 à 10 ans ou un truc comme ça, il y a cette période où là tout le monde les regarde et on commence à arracher les pattes des autres crades et on montre aux gens et voilà, et c'est rigolo.
Donc tu penses qu'il y a un lien?
En fait je sais, enfin j'ai pas trop d'éléments là-dessus. Je pense qu'il y a une jouissance dans la tuerie de l'animal, des fois dans le rituel, dans la procédure.
Est-ce que c'est quelque chose qui appartient, tu penses, à l'identité, plutôt à l'identité masculine, la mise à mort? le meurtre.
Je sais pas si ça appartient à lui.
Est-ce que la mise à mort et le meurtre sont...
La mise à mort, peut-être. Pas le meurtre.
Et quel est votre rapport avec la mort des animaux que vous pêchez? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, en fait?
Moi, je ressens pas grand-chose. C'est une sorte de mindset. Enfin, c'est même pas toi qui te le mets, le mindset, mais juste... Enfin, moi, en tout cas, quand j'entre à bord, je sais que... Enfin, c'est même pas je sais, c'est juste... Il y a moins la notion de la mort et des conséquences que ça peut avoir. C'est juste, t'es dessus et voilà.
Ouais. Et c'est comme ça.
C'est comme ça.
On accepte qu'on va tuer des poissons. Et donc, donc c'est tout. Enfin, c'est comme ça. Et après, on fait aussi, on pêche, enfin, c'est extrêmement rare qu'on jette tue des poissons pour rien. Il y a eu un cas ce matin, mais c'est extrêmement rare. Et sinon, les poissons, alors même si on les tue et qu'on les met à la boîte pour les saler, en fait, on va vouloir, enfin, on a un objectif derrière. Mmh. On va vouloir.
Tu peux préciser peut-être ce que c'est la boîte.
C'est donc du poisson, enfin.
En général, la boîte, c'est juste ce que tu vas mettre comme appât, en fait, dans tes casiers, sur tes hameçons, sur tes trucs. Et donc là, quand on dit d'aller mettre à la boîte, c'est soit de congeler du poisson pour qu'il soit frais, soit de le mettre, parer, de le couper en deux, de le mettre à plat et de le mettre dans le sel.
On fait ça et le poisson, il est plat en fait. Enfin, on l'a tué, c'est sûr, et il est plat, on ne le mange pas, mais en fait, on s'en sert après pour appâter, pour les casiers ou autre. Mais on a toujours cet objectif-là, en fait. Et on n'est pas là à tuer et à remettre à nous.
Oui.
Alors, c'est vrai que ça fait longtemps. Donc, c'est plutôt du souvenir de ce que j'en ai. Ou de comment je l'ai interprété sur le moment et ce qui en est resté. Parce que je ne me souviens plus trop. J'étais petite, en fait, quand même. Enfin, j'ai 20 ans maintenant. Donc, ça se trouve, le dernier que j'ai tué, c'était il y a 12 ans. Non, peut-être pas il y a 12 ans, mais il y a au moins 10 ans, je pense. Ou 8, je ne sais pas. Ça fait un moment quand même. Et c'est pas complètement resté. Je trouvais ça triste pour eux. Je me dis putain, on va les buter. Ils vont mourir. Et là, je les vois avant qu'ils meurent. Et tu vois, ils sont affolés, etc. Et j'aime pas ça du tout. Désolée, ça me rend émotive. Je peux avoir l'eau, s'il te plaît? Je sais pas. Mais quand je faisais la remarque que j'aimais pas, je me disais, ah, les pauvres, c'est triste, etc. Et ils me disaient, oh non, mais c'est que des poissons. On s'en fout, c'est des poissons. Oh, tu vas pas nous faire chier. Ou des trucs comme ça. Est-ce que peut-être qu'ils ressentent quelque chose, ils veulent pas le dire, j'en sais rien, ou ils bloquent le truc, mais en tout cas, de ce qui laissait paraître, eux, ils avaient l'air de dire oui, ben on est neutre, on s'en fout, machin, on bloque le truc. Voilà, on n'est pas venu pour se prendre la tête quand on récupère le poisson dans le bateau, on est venu pour remonter, là on est dans un truc, dans une manœuvre, machin, on va passer à autre chose, etc.
Du coup, ce mindset là que vous décrivez, cette façon donc un peu opérationnelle de mise à mort avec des outils spécifiques, les hameçons. J'imagine que vous utilisez des outils aussi pour mettre à mort les animaux. Est-ce que vous pensez que quelque part ça vous conditionne, ça vous apprend à tuer? Est-ce que la pêche est aussi un apprentissage de tuer des animaux?
Je sais pas trop. Alors, le poisson, c'est quand même particulier parce qu'il crie pas. Donc il exprime sans doute sa douleur en gigotant et voilà, mais on l'entend pas. Mmh. Et c'est pas un mammifère. Donc on est quand même très éloigné de l'être humain. Mmh. Et moi, je pense que je serais incapable de tuer un lapin. Enfin là, on rentrerait dans un truc.
Moi, un lapin, à la rigueur, je pense que ça le ferait. Un lapin ou une poule. Mais dès qu'à passer sur des gros animaux...
Déjà une
déjà une poule, ça fout du sang partout.
Et puis égorger un cochon.
Mais le cochon...
Recueillir le sang pour faire le boudin et tout. Là, c'est... Ouais. C'est autre chose, quoi. Enfin...
C'est pas le... Ouais. Mais c'est vrai que t'as pas le cri... Enfin, ça crie pas, ça fait pas de bruit vraiment, donc c'est moins... Pas traumatisant, mais ça te choque moins quand tu le fais. Et je pense que c'est plus facile... à faire que d'autres animaux, et encore plus sur les crustacés où en fait ils sont là, ils sont tranquilles dans leur coin, ils sont juste posés, et en fait tu vas juste les tuer quand tu les fais cuire, quoi. C'est moins en fait t'es comment dire t'as pas du tout le truc qui te regarde dans les yeux en sachant que c'est sa fin, quoi.
Oui.
Alors que t'as certains animaux où c'est le cas. Enfin, il voit la lame et il sait qu'il y a un truc qui va mal se passer. Le poisson ou le homard, le crabe, les trucs, t'as moins ce rapport-là. Ça va moins t'es moins choqué par ce que tu vas faire, en fait. Je pense.
Marseille, quand s'éveillent les beaux jours de la belle saison, dans les bacs, on s'embarque pour taquiner le poisson. Les girelles nous appellent comme des sirènes dans la mer, et l'on jette, quelle fête, l'hameçon dans les flots verts. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des joyeux marseillais. Les plus fainéants pour pêcher se dépêchent. Les plus blasés ne s'enlacent jamais. Quand ça pite, 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 quand ça pite à la meçon, on retire vite, vite, on retire le poisson. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des Marseillais. Les plus fainéants pour pêcher se dépêchent. Les plus blasés ne s'enlacent jamais. Quand ça pite, 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 quand ça pite à la meçon, on retire vite, vite, on retire le poisson. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le parfait des Marseillais. La tempête qui nous guette n'arrête pas les vrais pescadons. Si la vague fait des blagues, eh ben nous pâtissons. Et c'est tout. Mes pêcheurs vers la terre, lorsque bredouille nous revenons, on s'arrête chez Villette qui nous vend du bon poisson. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des joyeux marseillais. Les plus fainéants pour pêcher se dépêchent. Les plus blasés ne s'enlacent jamais. Quand ça pite, 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 quand ça pite à la meçon, on retire vite, vite, on retire le poisson. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des Marseillais.
L'élection de Donald Trump consacre le retour du patriarcat et l'affirmation de la domination masculine. En même temps que l'extrême droite opérait sa mutation et son ascension vers le pouvoir dans l'ensemble des démocraties occidentales, elle a su récupérer le ressentiment des hommes frustrés par la liberté et l'autonomie des femmes. C'est aujourd'hui au travers d'une internationale masculiniste aux facettes multiples que le patriarcat déclare la guerre au féminisme. Comment cette affirmation de la domination masculine est vécue et ressentie par les hommes en 2025?
Donc en fait, c'est une émission sur la masculinité, sur le retour de la masculinité dans la politique et dans le champ médiatique. Et donc du coup, on a quelques petites questions à ce propos-là sur la représentation de la masculinité dans les médias et puis la sensibilité des gens à cette problématique. Enfin, problématique. Et donc du coup, première question.
À travers l'éducation que vous avez reçue, quelle image avez-vous de ce que doit être un homme ?
Ouais. Non, moi je pense que l'homme doit apporter de l'assurance, de la bienveillance, et puis savoir sur qui s'appuyer et guider les gens, guider sa famille, inculquer des valeurs à ses enfants.
Et en règle reçue, en règle générale, je dirais qu'un homme doit être pour la popularité, pour tout le monde. Je dirais qu'un homme doit être en général fort. Un homme de mon éducation, et pour moi, ça va être quelqu'un de sincère, d'honnête. Et pour moi, je pense que c'est déjà de belles prouesses.
Et il y a des hommes dans l'espace public qui s'organisent et qui dénoncent la féminisation des garçons et une société qui éduque plus les garçons avec des valeurs masculines. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup ?
Après, c'est chacun son éducation. Je pense que ce n'est pas la majorité de la population. La population, ça, c'est ce que les gens veulent faire dire. Un groupe de personnes veulent peut-être faire dire ça, mais ce n'est peut-être pas la réalité. On ne le saura que dans quelques années, avec l'avenir. Il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Aujourd'hui, chacun, même si certaines personnes veulent prôner, comme j'évoquais, le manque de genre, enfin l'abolition des genres et tout ça, je ne suis pas persuadé qu'au fond, les gens dans leur propre famille inculquent ce genre d'éducation.
C'est ridicule.
Ouais.
Ouais, c'est ridicule.
Ok.
Ridicule.
Quel sens, dans le sens où ce serait bien de désamorcer ces valeurs-là ou justement qu'il faut les encourager, enfin les remettre
non,
en goût du
ah
jour.
Non, 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 non. Non, que l'homme reste homme et la femme reste femme. Non, bah non, non, faut pas valoriser ça.
Ok.
Il y a du coup, tu sais, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux élections américaines, pas mal d'hommes, patrons d'entreprises de la Silicon Valley, dont Elon Musk, Mark Zuckerberg, qui ont apporté leur soutien à l'élection de Donald Trump. Et qui ont fait des annonces dans les médias ces derniers temps sur la virilité, justement, et sur le besoin de réaffirmer, du coup, la puissance masculine. T'as Mark Zuckerberg qui a dit que la culture d'entreprise avait été émasculée et qu'il fallait à nouveau montrer de l'agressivité et renouer avec une sorte d'essence masculine. Comment tu vois ça, toi, ce discours politique qui existe ?
C'est qu'une question de pognon. C'est du pognon, je pense, voilà. C'est ouais, du pognon, c'est parce que, voilà, ils trouvent leur intérêt en disant ça, alors que je sais pas s'ils le pensent réellement. Je pense qu'ils le pensent pas réellement. Parce que je les vois pas comme des bonhommes, ceux-là. Donc, non, je pense que c'est qu'une question de pognon, là. C'est, de soutenir un personnage par intérêt, je pense. C'est leur intérêt. Mais je sais pas s'ils le pensent réellement. Mais par contre, ils le disent, donc c'est ridicule, quoi.
Mais non, c'est ce que tu disais, l'image, du coup, de la masculinité, tu vois. Bon, au final, elle arrive au pouvoir, tu vois, genre, que ce soit la Russie, hop, tu vois, on les voit toujours avec un ours, un machin, tu vois, ça reste solide. Alors que le peuple, à la base, tu vois, on s'en fiche, tu vois. Que tu sois représenté par un ours... Nous-mêmes, on peut avoir un coq solide, tu vois.
Au niveau de la France, là, il y a Emmanuel Macron qui répète depuis un peu de temps, mais là, dernièrement, qu'on est en guerre. Et il a repris à différents moments des images un petit peu du guerrier en posant avec des costumes militaires. Lors de l'invasion en Russie-Ukraine, il s'est mis aussi en scène comme s'il était en QG de guerre. Et dernièrement, il a publié des photos, il fait des matchs de boxe. Est-ce que vous pensez qu'il incarne une figure de chef de guerre ?
Je pense qu'il est en train de préparer, il est assez suffisamment malin pour préparer l'opinion. Tout simplement ça. J'ai pas plus à dire. Je crois qu'il est très intelligent, contrairement à ce qu'on peut penser. Il est très intelligent et pour moi, hein. Après, je suis pas dans sa tête, je suis pas au pouvoir, mais. Commençant à le pratiquer depuis de nombreuses années, je pense que il y a quelque chose derrière.
Et vous pensez que l'opinion est sensible à cette imagerie un peu du chef de guerre ?
Non, parce qu'en fait, tout le monde est instrumentalisé. Vous avez toujours... c'est la chienlit en France au milieu politique. Donc tout le monde dit le contraire ou dit quelque chose... qui est quelque chose qui est prononcé ou qui est dit par le président, tout est démonté derrière. Je ne soutiens pas, attention, hein, mais voilà. Et on l'a bien vu avec les régimes des retraites, hein, voilà, c'est le seul, je dirais, entre guillemets, qui a eu les parties basses d'avoir mis en place. Aujourd'hui, je défie quiconque de revenir en arrière.
Mais moi, j'en pense qu'il faudra revenir en 68 et tous à poil dans un champ. Hommes et femmes égaux.
Tu penses que ça réglerait les problèmes ?
Faire un pas en arrière, ouais.
Après, je sais pas si ça réglerait, mais ouais, ça serait une bonne idée.
Il y a des groupes d'hommes qui organisent des stages pour renouer avec leur masculinité.
Non,
tu vois, des espèces de stages.
Ah non, 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 faut garder le côté féminin aussi chez l'homme. Parce qu'on a un côté féminin. Donc faut pas l'enlever. Ah ouais. XY, hein. On a les deux, nous. Donc voilà.